Bonjour à tous, j'ai pas vu tout le monde. On n'est pas nombreux, mais les meilleurs sont là. Donc profitons de ce dernier jour de l'année. Vous vous doutez où est-ce que je vais vous emmener ce matin, parce que nous suivons notre parcours dans Néhémie. Et nous sommes dans le chapitre 4. Et c'est intéressant de voir comment Dieu prépare les choses, puisque nous sommes à la fin de l'année, et ce chapitre 4, lui, va peut-être nous aider à faire la transition pour nous amener dans l'année qui vient. C'est un chapitre qui commence à nous parler du combat de Néhémie. Et justement, pour préparer l'année qui vient devant nous, c'est pas une année forcément où on va rien faire, au contraire, c'est une année où, comme chaque année, comme chaque jour, il y a dans ce monde un combat à mener. Alors, je ne vais pas vous répéter tous les autres chapitres, hein, vous commencez par les connaître. Nous sommes dans le combat et nous allons voir que la foi n'empêche pas de combattre. Dans les trois chapitres précédents, nous avons vu Néhémie, le conducteur, qui place, hein, justement son récit, qui nous explique de quelle manière il va avancer. Le peuple a accepté de le suivre. Le chapitre 3 s'achève par le peuple a pris ce travail à cœur. Voilà, donc Néhémie a encouragé tous ses frères et sœurs qui sont à Jérusalem à se mettre au boulot et ils se sont mis au travail. Mieux même, ils ont pris ce travail à cœur. Dans les chapitres qui sont, comment on va dire, un petit peu parallèles dans Esdras 3 à 6, nous voyons le contraire avec l'arrêt de la construction du temple dû au découragement des Juifs, puis de nombreuses années après, la fin de la construction du temple. Mais dans Néhémie, nous voyons que le ton change, surtout à partir du chapitre 4. Prions. Seigneur, ce livre est un livre très agréable, parce que c'est un livre conquérant, c'est un livre qui est dynamique, c'est un livre aussi qui nous parle de la vérité des choses, qui nous révèle que nous sommes dans un monde méchant, un monde sans Dieu encore plus aujourd'hui, mais un monde où, justement, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout aille bien constamment, parce que ce n'est pas vrai. Ce monde nous oblige à mener un combat, peut-être pas le combat qu'on voit dans le monde, c'est-à-dire avec nos poings, mais un combat spirituel. Parce que notre ennemi, il nous est dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, etc., etc. Seigneur, je prie ce matin que justement ce petit chapitre nous encourage, parce que c'est un encouragement que nous voyons dans ce chapitre. Encore une fois, Néhémie n'est pas un homme de défaite ou un homme de découragement, au contraire. C'est un homme qui mène à la victoire et c'est un homme aussi qui dynamise le peuple par des choses très précises, sérieuses et véritables. Et c'est ce que nous voulons voir aussi ce matin. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont en vacances, tous ceux qui sont dans une autre église, hein, qui sont essaimés par-ci, par-là, afin que tu leur fasses du bien, nos frères et sœurs, et nous voulons justement être avec eux par la pensée. Nous prions pour ceux qui sont malades, qui traversent des moments difficiles. Seigneur, la maladie est une réalité, et bien souvent, les uns les autres, nous pouvons y être touchés. Et nous te remercions pour ton aide que tu nous apportes, mais nous prions pour que tu soutiennes ceux qui ont de la difficulté à traverser ces épreuves. Nous nous joignons à eux et nous te demandons, Seigneur, là, dans ces instants, de leur apporter un soutien, que ta miséricorde s'exerce dans leur cœur et puis qu'ils puissent être soulagés. Seigneur, merci que nous pouvons toujours faire appel à toi. Bénis ces instants. Bénis ta parole, Seigneur, qui est puissante pour convaincre, corriger, exhorter, instruire. Et je prie que tu, comme disait Isaïe, que tu purifies ma bouche, Seigneur, afin que tout ce qui sort puisse être béni par toi, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, lisons ce chapitre 4. Chapitre 4. Donc, à la fin du chapitre 3, je vois les derniers mots, et le peuple a pris ce travail à cœur. Chapitre 4, cependant, Cependant, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre ces attaques. Toutefois, les Judéens disaient « Oh, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons jamais à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Oh, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons, alors, et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous les lieux du domicile. « Il faut que vous reveniez vers chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant. Et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple. Le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail. La moitié des hommes gardaient la lance de la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se lever. Sacré combat, hein ? Chapitre 4, le ton change. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que tout semblait réussir aux Juifs. Hein, ils construisaient, ça se passait bien, mais là, maintenant, d'un seul coup, on voit que les choses changent. Et nous allons parler du découragement, l'arme préférée du diable. En effet, au verset 1, il est écrit « Cependant, hein, ça s'était bien passé, cependant, et les ennemis arrivent afin qu'au verset 4, ce soit un peu la réplique du livre d'Esdras, avec la complainte peureuse et la fatigue. Heureusement, nous sommes ici. » Et ça m'a fait penser, quand j'étais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans ma carrière professionnelle, j'étais un directeur technique en imprimerie, et dans ma carrière, j'ai constamment entendu « Nous n'allons pas y arriver dans les délais. » Ah ça, c'était une réplique que j'entendais constamment. « On ne va pas y arriver. » Et ça doit être encore pire maintenant, puisqu'ils ont encore plus de pression, les pauvres. Mais à mon époque, c'était quand même quelque chose qu'on entendait souvent. Pour les imprimeurs, le délai est le premier ingrédient d'un dossier. Le deuxième, bien sûr, c'est le prix. Mais avec vigueur, j'ai dû chaque fois rappeler que nous y étions toujours arrivés et que nous ne pouvons pas vivre chaque jour avec le poids de la semaine sur le dos. À chaque jour suffit sa peine. Mais c'était intéressant de voir que c'était constamment la même chose. Et ici, le peuple, finalement, se retrouve exactement dans cette situation. On voit que, finalement, on n'a rien inventé, hein, sous le ciel. On est toujours dans la même chose. On voit que le peuple se décourage. Il y a tellement de fardeaux. Vous avez vu toutes les décombres qu'il y a. C'est ce que, sous Esdras, ils ont dit. Mais là, Néhémie ne va pas faire comme les chefs qui étaient sous Esdras. Il ne va pas se laisser faire. Lui ne change pas sa méthode journalière. Au verset 3, il dit « Nous avons prié notre Dieu. Et nous avons mis une garde en place. » Vous vous souvenez, c'est le fil conducteur du livre, je vous le rappelle. Néhémie ne réfléchit pas. Néhémie n'a pas de problème sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Non, il y a des problèmes qui arrivent. Nous avons prié notre Dieu. C'est la première réaction de Néhémie. Ça montre que son cœur est tout entier à son Dieu. Il n'a pas besoin de chercher. Il n'a pas besoin de se poser de questions. Il ne se pose pas de questions. Il a établi un plan pour faire les murailles. Ça, c'est l'homme qui sait diriger, qui sait conduire ses travaux. Mais de l'autre côté, on s'aperçoit que quand il se passe quelque chose qui est différent ou qui vient empêcher les choses de se faire, il sait qu'il a affaire à un ennemi que l'on ne voit pas, mais qui est actif. Alors lui, il en appelle à son père. Il a prié Dieu. Pour Néhémie, c'est Dieu qui est important, primordial. Dieu d'abord. C'est intéressant de garder ça toujours dans sa tête. Vous savez, je dois être pénible, hein, parce que je le répète souvent. Mais pour Néhémie, c'est clair. C'est pas, il n'y a pas de discussion. C'est Dieu d'abord. Et ça change tout. Néhémie se sait aimé de Dieu. Et vous connaissez comme moi la parole de Dieu, l'amour bannit la crainte. Nous sommes le dernier jour de l'année et cette année a été difficile, comme pour Néhémie. Le combat ne peut pas toujours être évité. L'ennemi, lui, il n'arrête jamais. Vous savez, un de mes professeurs que j'avais quand j'étudiais la Bible nous disait comme ça, « Souvenez-vous toujours d'une chose, vous n'avez à vous occuper que du bien. » L'ennemi, lui, il s'occupe toujours du mal. Il n'arrête jamais. Et ça, il le fait bien. J'ai gardé ça en ma mémoire parce que c'est assez vrai. Ne croyez jamais que l'ennemi a tourné la tête et qu'il a dit « Oh, je vais le laisser tranquille ». C'est pas vrai. Jamais, jamais il ne nous laissera tranquille. Cet ennemi, il est déclaré, et du jour où nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre cœur, nous sommes devenus son ennemi. Alors si vous ne savez pas combattre cet ennemi, lui, il sait nous combattre. Et il sait aussi comment nous décourager, il sait comment même nous faire perdre. Et le peuple a peur. Verset 4, il dit « Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs va faiblissant, il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille, on ne va pas y arriver !» Ah non, non, vous avez vu le temps là derrière? Vous avez vu les bras fatigués? T'as vu qu'on n'est pas nombreux? Les femmes sont épuisées, on ne va pas y arriver. Voilà comment on se décourage. En regardant aux choses visibles et pas en faisant confiance à Dieu. Surtout qu'au verset 5, les adversaires ne sont pas du reste. En règle générale, le troupeau est fébrile. Il écoute tous les bruits et tremble. Verset 5, il est écrit, si j'arrive à reprendre, quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Les pauvres juifs, ils entendaient ça. Ils vont nous tuer. Ils vont venir, ils vont nous tuer. Nous sommes fatigués. C'est une bonne leçon pour nous. La parole est pleine d'avertissements et d'encouragements pour nous aider à regarder non pas l'écume des choses, mais aux vagues de fond. C'est un terme de marketing. Qui veut dire, non pas aux choses visibles, mais à Dieu qui peut tout et qui est le seul à être le Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel. Ma deuxième fille, Caroline, vient d'être opérée d'une hernie discale. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à mon pauvre Guy, qui lui a eu une opération d'hernie discale qui s'est mal passée. C'est pour ça qu'il est dans un fauteuil. Vous voyez, ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, heureusement, les technologies ont évolué et les choses sont plus simples. Donc ça s'est bien passé. Mais avant, elle avait peur, donc on s'appelait souvent, je lui ai conseillé de prier Dieu. Ma fille est chrétienne, c'est une famille chrétienne, et de s'en remettre à lui. Elle m'a répondu, « Prie-toi, papa, moi je ne peux pas, j'ai trop mal. » C'est normal. Quand elle m'a dit ça, je n'ai pas engueulé ma fille. J'ai dit, « Oui, je vais prier pour toi. » Je lui dis, « Je prie pour toi tous les jours avec ta mère, et chaque fois que je viens vers Dieu, je lui parle de toi, sois tranquille. » Après l'opération, elle m'a dit, « Tes prières ont été entendues. » Chers frères et sœurs, notre Dieu entend nos prières. Je ne sais pas pour vous, mais nos enfants nous touchent. Ce sont notre chair, quelque part. Donc quand ils sont attaqués à l'intérieur de leur chair, nous avons peur pour eux. C'est normal que nous crions à Dieu et que nous les portions devant Dieu. Et de savoir que Dieu entend, d'être sûr. Je crois que c'est dans ces moments-là que nous avons le meilleur témoignage à donner, parce que ma fille tremblait, elle avait peur, et quand je lui ai dit « mais je vais parler de toi avec Dieu, il s'occupe de toi », eh bien elle était rassurée. « Prie pour moi, papa. » Quel bonheur. Merci Seigneur, merci d'être toujours avec nous et de nous laisser cette possibilité de témoigner. Et là, nous voyons verset 6, Dieu agir au travers des Juifs qui habitaient parmi les païens. 10 fois, les Juifs sont venus avertir leurs frères que les autres y madigançaient des choses et qu'ils allaient faire ci, qu'ils allaient faire ça. Parce que, vous savez, à Jérusalem, il y avait ceux qui étaient dans la ville et puis, comme ils avaient été tourmentés, agressés partout, il y en avait de partout autour. Et ils n'étaient pas tous aussi, fébriles pour venir travailler à la muraille. Donc d'autres étaient restés chez eux. Et bien sûr, ils entendaient. Vous verrez par la suite que même certains vont devenir les ennemis de Néhémie. Mais là, ce n'est pas le cas. Dieu va les utiliser pour avertir leurs frères. Ce qui a permis à Néhémie, on voit le verset 7, d'agir et de dire au verset 8, « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Néhémie met en avant 2 motivations qui doivent redonner courage. La première concerne leur vocation venue du Dieu, toujours Dieu en premier. « Ne les craignez pas. » Néhémie, il sait, il entend les plaintes et puis il les partage. Il est dedans, il est au cœur du combat, il sait bien qu'ils ont raison. Mais il dit, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. C'est intéressant de voir que, vous savez, les Juifs sont normalement des gens très pieux. Il faut leur laisser, c'est vrai. Ils avaient, en plus à cette époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas toutes les choses qui nous divertissent l'esprit aujourd'hui. Donc, ils étaient là et ils avaient l'habitude d'être quand même en contact avec Dieu. Ils faisaient des tas de choses, ils allaient au temple, etc. Et malgré cela, ils avaient une vision qui semblait ne pas être très juste de Dieu. Néhémie le rappelle. C'est pour ça que Néhémie le rappelle. Il dit, souvenez-vous, vous ne vous souvenez pas en Égypte qui c'est qui a ouvert la mer Rouge? Qui c'est qui l'a fait? Qui avait la puissance de le faire? Notre Dieu, pas n'importe qui, ne regardez pas autour de vous, au Dieu de bois, machin, tout ça, ça sert à rien. Parce que les Juifs étaient influencés, c'était des hommes, et des femmes bien sûr, comme chacun d'entre nous. Est-ce que nous ne sommes pas influencés parfois par tout ce qui est autour de nous, cette mondialisation, cette matérialisation, ce mécanisme qui est autour de nous, qui ne marche pas parfois ? Intéressant. Mais c'est vrai que nous sommes influencés par le monde qui s'agite autour de nous. Eh bien, soyons sensibles à ce cri de Néhémie qui dit « Souvenez-vous, c'est à nous aussi, du Seigneur grand et redoutable. » Et puis la seconde concerne l'amour pour les leurs. Il dit comme ça « Combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Voilà 2 motivations capitales qui ressortent de ces exhortations. Et juste un regard sur la seconde. Intéressant ce petit clin d'œil. Juste le degré d'importance. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes. Et puis en dernier, pour les biens matériels. Ça ne semble pas être ce qu'il y a de plus important, vous voyez. Ça existe. Ah, on en a besoin. Et ce n'est pas le plus important. Le combat exige une grande lucidité pour arriver à la victoire. En premier, Dieu d'abord. Nous voici le dernier jour de l'année. 2017 se termine, 2018 arrive, année pleine de potentiel. 2017 a été une année difficile, pleine de fractures, de remises en cause. Elle laisse des blessures et des cicatrices. Nous avons la possibilité de dire « 2018 sera trop difficile, nous n'y arriverons pas ». Ou de dire « Tiens, voilà une nouvelle année, pleine de grâce qui se présente. Serrons les rangs autour de Jésus. » Vous voyez, c'est comme dans Néhémie. C'est un choix. Du temps d'Esdras, ils ont choisi de dire « C'est trop difficile, c'est trop dur, le ciel va nous tomber sur la tête. » Et ils ont lâché prise. Avec Néhémie, ils ont fait la même chose. Ils n'étaient pas changés, les Juifs. Seulement, il y avait un homme là, un homme de Dieu, qui a dit comme ça, « Souvenez-vous du Dieu grand et redoutable. Dieu d'abord, pas vos soucis, pas vos problèmes. C'est vrai que vous avez vécu, etc., etc., mais souvenez-vous de ce Dieu. » Le combat est souvent une question de préparation. Comme pour un athlète, qui va avoir une rencontre importante, capitale. Regardez les Jeux Olympiques. Pendant 4 ans, l'athlète va se préparer durement. Il va se priver des joies que font les autres. Il va souffrir, mais s'il met Dieu d'abord. Je ne sais pas si vous avez vu ce film « Les chariots de feu ». Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Très beau film, où l'on voit différentes sortes d'athlètes. Nous voyons le juif, qui est un athlète vraiment costaud, qui se bagarre, etc. et tout, et qui sue, etc. Et puis nous avons le chrétien qui lui aussi fait tout ce qu'il peut. Seulement, il se laisse aller. Il se laisse aller, et le film est bien fait, parce qu'on voit tellement cet acteur qui se lâche complètement dans les bras de son Dieu. Alors les deux vont gagner des choses, mais on voit que les façons de faire n'étaient pas tout à fait pareilles. C'est un bon film qui est bien fait, une très belle musique en plus. Si vous ne l'avez pas vu, il est vieux, allez le voir. S'il compte uniquement sur ses propres forces, il va souffrir. Mais s'il met Dieu d'abord, avant toute chose, dans sa vie, il donnera tout ce qu'il a et il aura la victoire finalement. Dans la Bible, il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. « Ne crains rien, petit troupeau. » J'aime bien ce verset, on dit que c'est le verset des protestants. Et c'est vrai, « Ne crains rien, petit troupeau. » Allez, ensuite Jésus nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. 2018 sera l'année pour construire ou reconstruire. Notre Dieu combattra pour nous. » Si nous choisissons de mettre Dieu d'abord, ce soir à minuit, vous pouvez faire des vœux. Nous pouvons tous faire des vœux. Le premier, ce serait de dire « Dieu d'abord ». Dans cette année 2018, je vous encourage à dire « Dieu d'abord ». Je pense aussi à ce prophète Jérémie qui a vécu toute sa vie dans les peines et dans les souffrances. La douleur a été son pain quotidien. Il n'a jamais connu des moments de répit jusqu'à ce qu'il le mette dans une citerne pour le faire mourir. C'était terrible. Il a eu une vie terrible pour Jérémie. Eh bien, dans Lamentations 3:21, il écrit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Très beau verset que vous connaissez. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. » Et, comme notre ami Jérémie dit, « Oh, que ta fidélité est grande. » Verset 26, un peu plus loin, il dit « Il est bon d'attendre en silence. » Le secours de l'Éternel, Lamentations 3, 21 à 26. Ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Dieu d'abord. Dieu est le Créateur. Dieu n'a pas besoin de réfléchir pour faire. Il fait. Dieu ne se pose pas la question de ce qui sera. Il est. Moi, j'aime bien cet absolu dans Dieu. Maintenant, pour terminer, malgré ce que je viens de dire, j'aimerais vous parler un peu avec mon cœur. Vous allez dire, mais c'est ce que tu as fait. Oui, bon, mais j'ai quand même parlé à travers ce chapitre de la Bible. Et puis comptons les bienfaits de Dieu. Moi, je suis un homme sans passé, on pourrait dire, mais ici à Villefranche, je me sens dans ma famille. Je voulais vous le dire parce que c'est bon de se le dire. Vous avez peut-être de la chance d'avoir une famille. Moi, j'en ai pas. Si, j'ai une sœur qui est loin. À part ça, j'ai pas de maman, pas de papa, pas de grand-père, pas de grand-mère. Et donc, ma famille spirituelle, pour moi, est capitale. Mais j'ai besoin d'une famille riche, aimante. Une famille pour qui je compte. Une famille qui compte pour moi. Et nous, ici à Villefranche, avec mon épouse, on a parlé, c'est vrai, nous avons vécu dans pas mal d'églises. Ici à Villefranche, il existe une chose qui est importante, je vous l'ai déjà dit, c'est cet amour de communion les uns avec les autres, cet esprit de partage. Ne nous laissons pas être volés par l'ennemi, qui est un voleur et un menteur. C'est aussi un falsificateur, toujours en train d'essayer de nous faire croire des choses. C'est pas vrai. Moi, je vous dis la vérité. Ici, à Villefranche, l'amour existe. Il est authentique. C'est l'amour que Dieu a mis dans notre cœur, celui qu'il a déposé à l'intérieur de nous. C'est une richesse. Notre famille humaine est importante, mais la famille spirituelle est capitale pour vivre. Moi, je me suis rendu compte en écrivant ces choses, j'ai besoin de vous aimer. C'est une chose qui est à l'intérieur, j'ai besoin que ça s'exprime. Alors quand je suis tout seul dans ma chambre le matin et que je prie, c'est que je suis le matin, moi, je ne suis pas rien, je ne suis pas du soir. Mais encore ce matin, je pense, je vois vos visages. Et chaque fois que je vois quelqu'un, alors soit je pense à des choses bien, parce que je sais qu'il est bien, qu'il est agréable, mes musiciens, par exemple, j'y pense, je dis, oh, la chance d'avoir des musiciens. Nous avons vécu, demandé à ma femme, dans une église, il n'y avait pas un seul musicien. Je chante comme une casserole, je ne raconte pas la vie que c'était pour essayer de chanter ensemble. Ici, nous avons le privilège d'avoir des musiciens, quel bonheur. Rien n'est acquis dans la vie. Aujourd'hui, ils sont là, où seront-ils demain? Donc bénissons Dieu, comptons ses bienfaits. Ce sont des bienfaits. Nous avons la chance d'avoir des gens qui connaissent la parole, d'avoir des enseignants. Nous avons la chance d'avoir tout un tas de personnes, notamment féminines, pour s'occuper des enfants. Elles s'en occupent bien. Nous avons la chance d'avoir des locaux qui sont privilégiés. Nous avons vécu des temps où il n'y avait pas de locaux, où l'église était chez nous, dans notre maison. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et ça existe encore pour d'autres. Donc, ce n'est pas un acquis, c'est un privilège. Il y a des tas de choses ici qui sont merveilleuses, croyez-moi. Quand on a voyagé un petit peu dans le monde chrétien, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont bonnes et que nous jouissons. Moi, je remercie Dieu de nous avoir amenés jusqu'ici. C'est un réel bonheur pour moi de vous connaître. Et mes amis, nous allons vers des jours heureux à Villefranche. Nous allons avoir, vous savez que j'avais commencé l'année dernière avec Pierre-Yves, des rencontres sur un cœur pour les perdus. Et nous avons programmé deux rencontres cette année, une qui sera le 13 janvier. Je vous invite à venir. Parce que ces deux rencontres, l'année dernière, on a fait des rencontres qui étaient comment ça marche, en fait, finalement, l'évangélisation. Là, deux rencontres pour nous dire comment on fait, qui vont nous amener après. Qu'est-ce qu'on fait? Que doit-on faire? Que voulons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu voudrait faire avec nous? Intéressant comme programme. Je vous invite à venir parce que c'est vraiment des temps. L'année dernière, on a pris plaisir, hein, tous ceux qui étaient là, je crois que ces deux rencontres vont nous amener à faire des actions d'évangélisation. Un petit rappel simplement, ça fait 10 ans que nous sommes à Mâcon. Le Seigneur m'a permis d'avoir des fruits dans cette terre inculte. C'était pas facile, Mâcon. Et je vous ai amené un petit bouquin ici à la sortie, certains me l'ont demandé, c'est un petit livre de recettes normalement que j'ai fait, parce que j'ai travaillé beaucoup parmi des personnes en situation de handicap ou des personnes fragilisées, et ils m'ont demandé si je pouvais justement faire un résumé de ces recettes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a une quarantaine dedans, mais il y a beaucoup de photos où ils sont en action, certains. Pascal est venu un jour m'aider, Michel et puis Lily, il y a Christian qui est venu, il voulait pêcher mais il n'a pas pêché. Et c'est bien d'ailleurs, c'est bien que tu n'aies pas pêché. Je crois Anne est venue aussi. Donc j'ai essayé d'en mettre certains. Jean était venu aussi une fois, etc. Donc ils ont pu voir un petit peu en action. C'est une façon, et c'est peut-être ma façon de dire, que l'évangélisation demande d'être présent sur le terrain. Nous, malheureusement, je dois le dire, nous sommes un peu timides dans les évangéliques pour être actifs socialement. Nous sommes une société, c'est-à-dire que nous vivons en société, pas que dans l'Église. Autant je me réjouis d'être dans l'Église, moi qui suis tout le temps sur le terrain, quand je viens ici, je souffle. Ça me fait du bien parce que j'ai besoin aussi de regonfler un peu mes batteries. Et je peux vous dire que c'est un privilège parce que je les regonfle ici. Avec bonheur, hein, demander à ma femme, quand je repars, souvent dans la voiture, je dis « Waouh, c'était bien, on a passé un bon moment. » Et quand on casse la croûte ensemble, qu'on passe le repas, c'est vrai aussi. Je repars, je suis tout heureux. Parce que j'ai récupéré... Vous savez, moi, je fais un peu l'éponge. Hein. Quand je suis dans une situation où c'est bon, j'aspire, je prends tout ce que je peux. Parce qu'après, quand on est tout seul, il faut tout donner. Et quand il n'y a rien à donner, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne donne rien, hein. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver ensemble, de vivre cette communion fraternelle pour s'encourager et pour regonfler nos batteries, hein, pour nous redonner du cœur, pour nous permettre d'être justement... Alors socialement, c'est ce que l'on va apprendre ou peut-être redécouvrir, ou peut-être partager, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens ici qui font beaucoup socialement. Je ne veux pas dire que cette église n'a pas évangélisé, mais comme dans toute église, de temps en temps, il est bon d'avoir du sang frais... Et puis peut-être une autre façon de voir les choses. Et comme ça, ça permet de mélanger les choses. Et puis j'irai voir mon copain là-bas sur son stand. Je ne dirai pas le tenir parce que je ne veux pas m'engager. Je sais combien c'est astreignant. Et nous pouvons prier pour Bernard parce que ça, c'est un bon, on va dire, pilier, un bon pied à terre pour pouvoir être présent sur le terrain dans la société. Mais il y en a d'autres. Donc moi j'ai pas choisi, Dieu m'avait ouvert la porte, et c'est comme ça que j'ai connu Guy et d'autres, et que nous avons travaillé ensemble. Si vous voulez, vous pouvez lui demander, il en parlera mieux que moi. Je crois que maintenant, Dieu nous oriente vers un lieu, quand je dis nous, c'est Dominique et moi, vers un lieu où coule le lait et le miel, une terre de bénédiction. C'est comme cela que je vois Villefranche. Vous savez, ce qui habitait Néhémie, c'était sa profonde conviction. Souvenez-vous, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, Néhémie apprend la détresse de Jérusalem, il apprend tout ce qui se passe là-bas, il est atterré, hein, il tombe à genoux, et il prie, il jeûne et il prie, parce que il est vraiment, c'est sa famille, c'est ses frères et sœurs, etc. Donc il est vraiment touché par cette détresse. Et ça le touche tellement que, bien sûr, sur son visage, ça se voit. Alors, je vous ai déjà parlé, hein, les porteurs de vin, hein, qui est ceux qui amenaient au roi le vin, ils devaient avoir un bon visage, parce qu'à l'époque, on avait tendance à empoisonner les uns les autres. Donc, s'il n'avait pas bon visage, ça voulait dire qu'il était peut-être au courant d'un complot qu'il était en train de se faire. Et Néhémie se présente avec un mauvais visage devant le roi. Ce qui est extraordinaire, c'est le témoignage de Néhémie. Parce que le roi connaît Néhémie. Il a l'habitude d'être avec lui. Et il lui dit comme ça, ça ne peut être qu'une question familiale, une affaire de cœur. Il ne met pas du tout en cause que Néhémie puisse avoir de mauvaises pensées ou quoi que ce soit. Parce qu'il connaît Néhémie et il sait qu'il aurait dit au roi s'il y avait eu quoi que ce soit. Néhémie a cette conviction profonde, attachée à lui, que les autres voient. Quand ils voient Néhémie, ils savent que c'est un homme de Dieu. Et ils ne remettent pas en cause sa question. Quand les Juifs voient arriver Néhémie, ils en ont vu arriver d'autres, notamment Esdras, qui est un homme de Dieu. Esdras, on va le voir, c'est le prêtre, c'est véritablement un homme de Dieu. Mais Néhémie, il a un truc en plus. Il a cette conviction qui convainc les autres. Ça déborde de lui. J'ai mis ta prière, Evelyne, tout à l'heure. Parce que oui, évangéliser, ça déborde dans notre cœur. Et ça va donner envie aux autres. Les autres, ils ont envie. Moi, je me souviens, je me suis converti, je vous l'ai dit, hein, et je le répète, par la femme de mon toubib. Elle avait quelque chose de plus que les autres. C'est ce plus qui m'intéressait. Et ce plus a été tellement loin qu'il a touché aussi le cœur de ma femme, pareil. Ça débordait d'elle. Ça sortait. Alors, il y avait de l'amour, il y avait beaucoup d'humanité, mais ce qu'il y avait, c'est le Saint-Esprit qui était libre d'agir en elle. Frères et sœurs, j'aimerais parler avec vous cette année, comment on peut laisser le Saint-Esprit vivre en nous? Comment on peut détacher les courroies qui l'empêchent de sortir de notre gorge? Ouh, il faut ouvrir l'école, les amis, et laisser la parole jaillir, parole de Dieu, bien sûr. Et c'est elle qui va convaincre tous ceux qui sont autour de nous. Pardon, je m'éloigne. Il ne faut pas que je commence à parler comme ça, parce que on est encore là demain matin. 2018, pour moi, sera une année de préparation. Nous envisageons peut-être, oui, il faut le dire, c'est un truc, nous avions dit que dans 2 ans, nous arrêtons à Macron. J'ai prévenu tout le monde dans mes associations que j'allais arrêter, et parce que je pense que nous n'avons plus rien à faire là-bas. Et nous pensons peut-être nous rapprocher de Villefranche, si Dieu le veut. C'est la question que nous posons à Dieu. Mais il semblerait que, oui, il y a de grandes possibilités. Vous savez ce qui me fait marcher, moi, souvent? Je me pose des questions, demanderai à ma femme, j'arrête pas de cogiter, comme ça, c'est... Hein, ma tête, elle arrête jamais. C'est pour ça qu'elle est fatiguée parfois. Et je parle. On pensait aller vers ma fille du côté de Bourgoin, puisque c'est là-bas qu'elle habite, celle qui a été opérée, là, dernièrement. Nous avons notre petite fille. Alors, nous ne disons pas non, mais nous apercevons qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et ça fait déjà des années que nous recherchons, et c'est vrai que les obstacles sont toujours là, et ils sont majeurs. Alors moi, j'étais là, je dis, on va chercher, etc. Et il y a une personne qui, dans ma vie, plusieurs fois, est intervenue pour me dire, « Eh, si on faisait ça ?» C'est ma femme. Donc l'autre jour, elle m'a dit, « Eh, si on allait à Villefranche ?» Alors moi, vous savez, c'est... Ouh, changement de cap. Pouf, on va regarder de l'autre côté. Et c'est vrai que quand on regarde, les possibilités semblent être plus possibles pour nous. Quand je dis possible, ça veut dire financière. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, étant donné que c'est plus riche, c'est plus cher. La vie est plus chère de l'autre côté, c'est clair. Et puis, on ne sait pas ce que Dieu veut. Donc, on est en train de poser la question. Mais bon, j'ai déjà ma petite idée assez bien ancrée. Le problème, c'est que des fois, avec Dieu, ça chahute. Mais je vois que 2018 sera une année de préparation. Car il faut, comme pour chaque action, de la préparation avant de rentrer dans l'ouvrage. Et vous allez voir, pour ceux qui voudront s'engager dans ce ministère, ce sera un temps de grâce. 2018 va préparer le temps de grâce. Ne nous pressons pas, mais faisons le travail en son temps. Et Néhémie nous aide aussi dans cette préparation. Vous savez, je n'ai pas choisi Néhémie n'importe comment. C'est Dieu qui m'a donné Néhémie. Ce n'est pas moi qui ai dit, tiens, je vais faire ça aussi ou ça. Non. À un moment donné, j'ai posé la question, j'avais envie de reprendre un livre, parce que j'ai souvent prêché comme ça sur des livres à la suite. Ça permet de vraiment suivre l'évolution avec Dieu. Donc c'est Néhémie, c'est Dieu qui m'a donné Néhémie. Et quand on prend Néhémie, on dit, j'aime à me rappeler 2 choses que Néhémie met en avant. La première, nous avons un Dieu grand et redoutable, riche en bonté, un Père aimant qui n'a pour nous que miséricorde et compassion. Cela nous appelle à cultiver une qualité indispensable qui sera notre support pour ce temps de grâce. Cette qualité, c'est l'humilité. C'est Dieu qui est important. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est extraordinaire. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui va nous convaincre. C'est Dieu qui va me donner cette conviction qui me fait vivre et qui me fait porter la parole là parfois où je suis. Si c'est pas lui, c'est rien. Ça n'existe pas. J'ai déjà vécu comme ça en marchant de moi-même. Plouf, je m'en rappelle. Plouf, plouf. Ça, c'est la première. La seconde, je ne peux rien faire sans Jésus. J'aime bien ce verset de Jean 15, vous savez, où Jean 15, c'est la vigne et le cep. Hein, c'est ce passage-là. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. De moi-même, je ne peux rien, mais avec Jésus, tout est possible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça, mes amis, la seconde, c'est la grâce. Vais-je vivre cette année par la grâce, dépendant de la grâce, heureux d'être saisi par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés? Un privilège extraordinaire. Et chaque jour, Dieu nous demande de repartir. À chaque jour suffit sa peine, c'est vrai. Moi, chaque matin, la première chose que je fais, je lève les bras au ciel et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis comme David, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Même les péchés dont je n'ai pas conscience, mais que je n'ai pas manqué de faire. Dans les psaumes, il dit ça. Parce que c'est la vérité. Je suis un pécheur de nature. Alors soit, quand je m'approche de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect. La Bible dit crainte, et ça veut dire respect. Eh bien, si ce respect est profond, que j'ai un Dieu saint, que j'ai un Dieu tout-puissant, un Dieu qui vit dans une atmosphère de perfection, où rien ne peut troubler cette sainteté, c'est pas possible. Alors moi, qu'est-ce que je fais pour lui parler ? J'y vais avec mes pieds dégueulasses, et puis je rentre et je souille la sainteté de Dieu ? Non, mes amis, ça c'est pas possible. Impossible de faire ça. Par contre, je peux venir au pied de la croix, chaque matin, et dire, Seigneur, pardonne-moi, que ta grâce puisse me remplir par ton esprit, d'un bon esprit. J'ai envie de prier, Seigneur, que le Saint-Esprit intervienne dans mes prières pour les rendre acceptables dans la présence de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je vais dire, c'est ce que le Saint-Esprit va traduire, parce que lui, il sait quels sont mes réels besoins, et ma prière va venir se mettre au pied. Et vous savez, la prière du juste a une grande efficacité. C'est vrai. Quand on dit juste, ça veut dire justifié, ça veut dire pardonné, ça veut dire déclaré saint, c'est-à-dire mis à part, séparé de ce monde. Et chaque matin, si l'on veut être en union avec Dieu, il nous faut être séparé de ce monde. Frères et sœurs, c'est ce que Néhémie fait tout le temps. Dans sa vie, il est tout le temps séparé. Il se passe quoi que ce soit, il dit « Ah, arrêtons-nous, nous allons prier Dieu ». La première chose, première pensée, ça veut dire qu'il cultive tellement cet esprit de respect vis-à-vis de Dieu. C'est un respect, frères et sœurs. J'attire beaucoup votre attention là-dessus parce que nous sommes dans un monde irrespectueux. Nous vivons un monde qui ne sait plus ce que c'est que d'avoir du respect pour soi-même même, et puis pour les autres, bien sûr. Alors nous voyons n'importe quoi, mais c'est vraiment du n'importe quoi aujourd'hui. Mais il faut que ces choses arrivent. La Bible nous dit comme ça que les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent. Tiens, j'ai déjà vu ça, moi. Pas vous ? C'est ce que nous voyons dans ce monde. Mais nous, est-ce que nous sommes pareils ? Est-ce que nous vivons avec cette même pensée ? Nous nous laissons saisir par le menteur ? Séduire par le séducteur ? Je dois vous dire que moi, ça m'arrive. Hélas, je reste un pécheur. De temps en temps, quand on me fait du mal, et c'est souvent, parce que c'est vrai, quand on est sur le terrain, on en prend plein la figure. C'est vrai. Alors de temps en temps, je dis... La bouillotte, elle commence à bouillir. Et le Seigneur, il me dit, hey, « Hé, Michel, tu vas encore te mettre en colère ?» Eh oui. Ma femme me le dit souvent. Elle dit, « T'as pas fini d'être en colère ?» Pour rien. C'est vrai. Notre nature, elle est là. À nous de le reconnaître. À nous, chaque jour, et si c'est nécessaire, plusieurs fois par jour. Nous avons un Dieu qui dit dans Ésaïe qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. Frères et sœurs, imprégnons-nous de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Dans cette nouvelle année, je vous encourage à non pas lire, mais à saisir et à vous laisser pénétrer de cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne intimement personnelle à l'intérieur de vous. Ce qui fait que quand on se trouve dans le combat, les mots qui viennent ne sont pas les nôtres, mais ils sont inspirés à ce moment-là par Dieu. Mes chers frères et sœurs, 2018 ne sera pas exempt d'épreuves. Et comme Néhémie, nous prions notre Dieu, il combattra pour nous. Rappelons-nous, en premier, Néhémie nous dit « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Et en second, ben combattez. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Ne soyez pas inertes, sans rien faire. Et en toutes circonstances, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Pour 2018, laissez-moi vous souhaiter Une année pleine de repos, une année de pardon, une année de miséricorde, une année de victoire, enfin, une bonne année. Seigneur, merci de ce temps que nous pouvons partager sur ta parole, et nous voyons dans ta parole que le combat est quelque chose de constant, parce que l'ennemi, lui, il est fidèle. Mais nous avons un Dieu qui est fidèle par-dessus toute chose. Cela dépend de notre intimité avec lui, de notre relation personnelle. Merci Seigneur de ne pas regarder à ce que nous sommes, mais de regarder à Jésus. Nous savons que tu nous vois à travers Jésus, et tu nous vois débarrassés de notre humanité. Tu nous vois dans cette nouvelle nature que tu nous as donnée, que tu chéris et qui t'appartient éternellement. Seigneur, quel privilège, quelle espérance de savoir que si aujourd'hui c'est difficile, si aujourd'hui c'est dur, eh bien viendra des temps où ce sera merveilleux et constant dans ta présence. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que nous avons le privilège de te connaître. Et nous savons que tu te révéleras de mieux en mieux, de plus en plus. Tu es éternel, infini. Comment pouvons-nous nous dire qu'un jour, nous saurons complètement qui tu es? Pas dans cette vie, en attendant, c'est sûr. Et Seigneur, je prie que tu nous donnes à tous de bien finir cette année et surtout de bien commencer en te mettant toi d'abord. Au nom de Jésus. Amen.